Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du balado du projet Journalism Role Performance, la performance des rôles journalistiques. Je m'appelle Colette Brin et je reçois aujourd'hui Myriam Sayri, doctorante qui, en communication publique, qui a participé à cette étude. Bienvenue Myriam.
Merci. Bonjour Colette.
Donc, on va parler un peu de toi avant de parler de ta participation au projet. Tu es doctorante, tu travailles sur un sujet qui est quand même complètement différent avec une expérience assez différente, là, qui n'est pas journalistique comme telle, mais qui est en communication. Comment est-ce que tu es arrivée à travailler sur ce projet-là?
Alors effectivement, moi je travaille sur la communication politique. Je suis en doctorat depuis quelques années, je suis sur la fin de mon doctorat. Et puis je travaille sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Donc ça n'a absolument
rien... La CEDEAO, bon, tu peux peut-être nous dire ce que
oui.
c'est là pour les
C'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
Voilà, donc on est quand même un peu loin du projet qui porte sur le journalisme au Canada et sur les rôles professionnels des journalistes, mais il y a quand même une dimension médiatique.
Alors oui, effectivement, je travaille sur les médias et puis je n'ai pratiquement pas fait de journalisme pendant mon cursus universitaire. Donc, c'était très intéressant pour moi de m'intéresser à cette dimension journalistique, d'autant plus que étant ma co-directrice, que tu travailles en journalisme, je me suis intéressée à cette dimension-là.
Et puis bon, ce qu'on t'a demandé de faire, en fait, c'est de faire les démarches de recrutement auprès des journalistes qui devaient répondre à un questionnaire. Alors, j'ai pensé à toi, parce que tu allais faire aussi des entretiens pour ta thèse, mais parce que tu avais aussi déjà travaillé à la Fondation de l'Université Laval, donc tu avais l'habitude de faire du recrutement avec des gens qui ne sont pas toujours réceptifs, j'imagine. Est-ce que cette expérience-là t'a servi dans cette démarche?
Oui, beaucoup, parce que j'ai travaillé 4 ans à la Fondation de l'Université Laval. Ben, en fait, j'ai appelé les diplômés pour qu'ils puissent faire des dons pour l'université. Donc, effectivement, c'était assez dur comme travail pour demander de l'argent à des personnes qui sont passées par l'université, sachant qu'on ne savait pas s'il y avait des personnes qui avaient de bonnes expériences avec l'université, de mauvaises expériences. Donc, ça a été une sorte de formation pour les entrevues que j'allais faire pour le travail pour le journalisme. Donc, j'étais assez préparée à recevoir des noms, à me faire dire, parce que je me suis fait dire à plusieurs reprises, oui, on pouvait me rappeler, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire notre entretien à cette date-là, à cette heure-là. Et quand je rappelais, c'était non à ce moment-là, et puis c'était reporté encore et encore et encore. Et puis au final, je me suis dit, je vais pas insister. Donc à ce moment-là, je passais à une autre personne. Et puis justement, le travail à la Fondation a été très formateur par rapport à ça.
On pourrait parler un petit peu des exigences de l'éthique, la recherche. Donc, dans un cas comme ça, quand on sollicite des gens, bon, j'imagine qu'il y a une éthique aussi à la Fondation.
Oui.
Parce qu'on veut justement pas brusquer les gens, on veut pas les mettre mal à l'aise, on veut garder une... Dans le fond, tu étais un peu une ambassadrice de l'Université Laval,
c'est
donc il y a un professionnalisme à maintenir. Mais il y a des règles très particulières en éthique de la recherche qui exigent justement de bien préciser d'avance comment on va solliciter les gens. Donc, dans ce projet-ci, au départ, on devait faire simplement du recrutement par courriel et les gens devaient répondre au questionnaire par écrit. Mm-hmm. Donc, tu as participé, bien sûr, à cette étape-là, mais à l'étape suivante, on n'avait pas assez de réponses et donc on devait contacter des gens pour faire répondre au questionnaire à l'oral. Et on sait que les journalistes, peut-être comme d'autres groupes de personnes aussi, réagissent mieux parce que, faire une entrevue au téléphone, c'est peut-être considéré comme moins de travail ou moins compliqué que de remplir un formulaire, même si un formulaire en ligne, ça peut être très rapide, parce que, bon, on a une personne au bout du fil et puis, bon, on dit « OK, d'accord, je vais répondre aux questions ». Sauf que, c'est ça, on se retrouve avec des personnes qui peuvent être plus ou moins réceptives. On sait que les journalistes sont très occupés. Hein? Oui. Ce que tu viens de dire, là, que les journalistes proposent une autre date, parce que l'actualité et puis le travail les rattrape toujours. Donc, c'est compliqué. Mais il peut y avoir aussi des réactions par rapport au contenu, au type de questions qu'on pose. Est-ce que tu as été confrontée un peu à ça?
Oui, parce qu'il y avait certaines questions qui demandaient le point de vue des journalistes. Et je me suis fait dire à 2 ou 3 reprises que les journalistes ne donnaient pas leur point de vue.
Même dans un sondage anonyme.
Oui, hein, c'est... même dans un sondage anonyme, les journalistes refusaient de répondre à certaines questions parce que ça allait solliciter leur point de vue.
Et est-ce que tu sentais qu'il y avait peut-être, dans certains cas, une méfiance à l'égard de la recherche elle-même, de l'étude?
Non.
Pas à ce point-là.
Non, non.
Bon, ça, c'est rassurant. est-ce que les journalistes trouvaient, par exemple, ce qu'on a entendu du côté anglophone, c'est que les questions fermées, les journalistes préfèrent les questions ouvertes parce qu'ils peuvent donner des explications. Est-ce que tu as senti ça aussi dans les échanges avec les journalistes?
Non, pas tellement. Les questions fermées, ils répondaient assez facilement. Et puis, les questions ouvertes, il y avait certaines personnes qui étaient plus aptes à développer, d'autres qui l'ont fait parce que c'était un travail pour une recherche, parce que je me présentais en tant qu'étudiante. Donc, ils se sont dit, on va aider une étudiante.
Ah oui, ça marche toujours. Ben, pas toujours, mais souvent.
Souvent. Mais sinon, j'ai pas eu de problème par rapport à ça.
Est-ce que tu as constaté d'autres, peut-être, surprises ou des... Bon, c'est sûr que c'était assez différent que les entretiens ou le démarchage pour la Fondation, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée dans tes démarches auprès des journalistes et tes échanges avec eux?
Ben, une fois que j'étais au téléphone avec eux, non, pas forcément. Il n'y avait rien qui m'a surprise. Mais par contre, ils sont très durs à rejoindre. Très, très dur à rejoindre. J'avais une longue liste et puis je devais en sélectionner une quinzaine. Et puis ça a été long avant d'avoir mes 15 répondants.
Alors ça, c'est certainement une des limites de la recherche. Oui. C'est évidemment pas de ta faute. On a eu le même problème du côté des médias anglophones. Les journalistes sont des gens très occupés. Dans certains cas, on a un numéro général pour une salle de rédaction. Et puis avant qu'on se rende aux journalistes, on sait que de nos jours... Parfois, la meilleure façon de joindre un journaliste, c'est par un texto ou un SMS directement sur son téléphone ou bien une plateforme de messagerie, mais on n'a pas nécessairement toutes ces coordonnées-là.
Effectivement.
Et justement, encore une fois, l'éthique, la recherche nous impose de procéder de manière la moins intrusive possible. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les harceler.
Ouais.
Et de ce que tu me dis, tu as été très respectueuse de ce processus-là, mais ça pose aussi des difficultés pour ce qui est d'obtenir un taux de réponse satisfaisant. Oui. Donc, on a, comme je le disais dans le premier épisode du balado, on avait trois médias francophones qui étaient inclus dans l'étude, ou trois plateformes, si on veut.
Mm-hmm.
La presse, donc, qui est un média maintenant entièrement numérique, l'émission « L'heure du monde » de la radio de Radio-Canada, et le journal télévisé de fin de soirée, le TVA Nouvelle, oui. Édition Réseau. Donc, on avait des journalistes de ces trois médias-là qui sont quand même des assez grandes équipes. Enfin, L'Heure du Monde, c'est une plus petite équipe parce que c'est une petite émission. Enfin, c'est une émission de radio avec des collaborateurs réguliers, des collaborateurs occasionnels, mais c'était quand même des assez grands médias. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des échanges que tu as eus avec tes homologues du côté anglophone, parce que vous avez dû un peu vous concerter sur le processus, sur la démarche. Donc, déjà, communiquer dans une autre langue, c'était peut-être un défi?
Oui, effectivement, c'était un défi, pas un frein, mais un défi. Et puis heureusement qu'il y a eu un logiciel de traduction. Qu'on a pu utiliser avec justement mon homologue du côté anglophone. On s'envoyait des courriels où moi je répondais en anglais et puis elle me répondait en français.
Oui, c'était très charmant ça. Moi je voyais évidemment tous les échanges qui passaient et puis je voyais que vous étiez très habile avec ce logiciel-là et que ça permettait aussi d'éclaircir certains malentendus, certaines différences qu'il pouvait y avoir, d'autant que les étudiantes qui participaient à l'étude à Toronto, c'était toutes des étudiantes en journalisme. Et de notre côté, ce ne l'était pas. Et ce que je trouvais quand même très riche d'avoir cet échange entre des gens qui ont un bagage journalistique, donc qui ont certaines connaissances de la pratique, mais des gens aussi de l'extérieur qui apportent une vision peut-être un peu plus externe. Donc, ça a été intéressant de voir vos échanges là-dessus, puis des expériences aussi différentes sur le plan de la recherche. Alors, si on revenait sur l'expérience, parce qu'entre-temps, tu as amorcé le travail de terrain pour ta thèse, les entretiens, est-ce que cette expérience-ci, dans ce projet de recherche-ci, le Journalism Role Performance, est-ce que ça a été utile pour ta thèse?
Oui, effectivement, pour le recrutement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour le recrutement de mes répondants à moi pour ma thèse. Après, c'est pas vraiment la même chose, étant donné que j'avais une liste de plusieurs personnes pour le projet de journalisme. J'avais une liste de plusieurs personnes à contacter. Et puis, au pire des cas, s'il y avait une personne qui me répondait pas, j'en avais toujours une autre en remplacement. Alors que ma thèse, non, j'avais une liste préétablie. Et je devais contacter ces personnes-là et pas d'autres. Et puis, si ces personnes-là ne répondent pas, il fallait que j'aille chercher ailleurs d'autres personnes qui répondent aux mêmes critères pour avoir mon échantillon représentatif.
Voilà, donc tu parles d'une... Là, on parle ici d'une population d'experts ou d'acteurs. Donc, c'est une population beaucoup plus réduite.
Oui.
Et tu cherches des gens vraiment avec un profil très particulier.
Oui.
Et donc, tu fais... Et puis, bon, c'est ton projet de thèse aussi. Donc, c'est toi qui construis ton échantillon et ta problématique et tout et tout. Donc, c'est sûr que ça te demande un peu plus de travail. Mais je suis contente de savoir que ça a pu te servir quand même, cette expérience-là, ne serait-ce aussi que pour les questions liées à l'éthique de la recherche qui sont exigées, bien sûr, aussi pour une thèse de doctorat.
Oui.
Alors, si tu faisais un retour général sur l'expérience, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais, par exemple, si tu t'adressais à une étudiante là, qui songe à peut-être faire une maîtrise ou un doctorat, est-ce qu'il y aurait des observations, des conseils que tu donnerais?
Alors, déjà, c'est une bonne introduction à la recherche, le fait d'appeler des personnes, de poser des questions, sachant que c'est pas moi qui les ai écrites, les questions, elles étaient déjà préétablies. Donc, c'est un bon exercice pour introduire à la recherche. Je conseillerais aux étudiants et aux étudiantes qui veulent se lancer en maîtrise de recherche ou au doctorat de faire ce genre d'exercice, d'approcher les professeurs, notamment les professeurs en journalisme qui font des recherches dans ce sens-là, et puis d'essayer d'avoir un emploi pour faire cet exercice qui est très intéressant.
Merci beaucoup à toi, Myriam, pour ta participation au projet et pour cet entretien. C'était le deuxième épisode du balado Journalism Role Performance avec Myriam Sahiri et Colette Brin.